Диск 3. Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит два раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего А, Ф и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Voyager en solo.
Speaker A.
Avant, je voyageais seule et j'aimais bien. Mais depuis que je suis avec mon mari, on voyage beaucoup tous les deux et j'apprécie encore beaucoup plus. Il nous arrive de laisser 2 ou 3 fois par an nos enfants avec leurs grands-parents et on se choisit une destination à la dernière minute. C'est super! Mais on prend des vacances avec nos enfants aussi. Dans ces cas-là, on ne visite pas le pays et on n'a pas trop de contacts. Mais on aime bien aussi. C'est un autre esprit de voyage.
Speaker B.
Ma réponse peut sembler banale, mais j'aurais tendance à dire que chaque façon de voyager, seule ou à plusieurs, a ses avantages et ses inconvénients. À mon avis, tout dépend du moment et de l'envie. Bien évidemment, il n'existe pas de recette miracle, comme il n'y a ni de bonne ou de mauvaise situation. Si je devais résumer mon expérience de voyage, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Au plan personnel, on apprend mieux à se connaître.
Speaker C.
À mon avis, il y a de nombreux avantages à voyager à plusieurs. D'abord, le budget est mieux tenu. Louer une voiture, prendre une chambre, tout cela coûte moins cher lorsqu'on est plusieurs. Il faut juste vérifier, avant de partir, que les amis ont le même budget que vous. En plus, il ne faut pas vérifier toutes les 5 minutes son agenda ou de réfléchir au trajet du lendemain. Lorsqu'on n'est pas seul, on peut mettre son cerveau en pause et laisser les autres gérer. Cela fait du bien.
Speaker D.
L'été dernier, mes 3 copains et moi, nous avons visité Shanghai et toute la région appelée Venise de l'Orient. C'était magnifique. Des étudiants chinois nous ont servi de guide sans demander un sou. Ils nous ont dit que leur récompense, c'était de pouvoir pratiquer le français. Très bon souvenir. Je crois que les vacances, c'est pour s'amuser, et pour moi, il est impossible de m'amuser sans mes amis. Par contre, au travail, j'aimerais être seul pour pouvoir travailler en tranquillité.
Speaker E.
Pour moi, la question ne se pose même pas. J'adore voyager seul. On peut y établir des contacts qu'un groupe, même petit, n'aurait pas pu avoir. Par exemple, il est plus facile de loger à l'improviste chez quelqu'un. On peut s'attarder quelque part sans avoir à s'accorder avant sur la nécessité de l'arrêt ou de la pause. On peut ne pas quitter sa chambre ou sa plage un jour de tristesse. Enfin, quand on est seul, tout le monde est prêt à venir en aide, car on paraît plus fragile.
Speaker F.
Voyager pendant plusieurs semaines à l'autre bout du monde avec des amis, constitue une sorte d'épreuve de force. C'est en revenant que vous savez s'ils sont toujours vos amis ou pas. Je crois que voyager avec des amis, c'est comme créer une entreprise avec des amis. Ce n'est pas toujours une bonne idée. Et si on y va quand même, il faut être prêt à faire des compromis qui peuvent parfois être importants. C'est la relation avec vos amis que vous risquez de mettre en danger.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre les textes encore une fois.
Voyager en solo.
Speaker A.
Avant, je voyageais seule et j'aimais bien. Mais depuis que je suis avec mon mari, on voyage beaucoup tous les deux et j'apprécie encore beaucoup plus. Il nous arrive de laisser 2 ou 3 fois par an nos enfants avec leurs grands-parents et on se choisit une destination à la dernière minute. C'est super, mais on prend des vacances avec nos enfants aussi. Dans ces cas-là, on ne visite pas le pays et on n'a pas trop de contacts. Mais on aime bien aussi. C'est un autre esprit de voyage.
Speaker B.
Ma réponse peut sembler banale, mais j'aurais tendance à dire que chaque façon de voyager, seule ou à plusieurs, a ses avantages et ses inconvénients. À mon avis, tout dépend du moment et de l'envie. Bien évidemment, il n'existe pas de recette miracle, comme il n'y a ni de bonne ou de mauvaise situation. Si je devais résumer mon expérience de voyage, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Au plan personnel, on apprend mieux à se connaître.
Speaker C.
À mon avis, il y a de nombreux avantages à voyager à plusieurs. D'abord, le budget est mieux tenu. Louer une voiture, prendre une chambre, tout cela coûte moins cher lorsqu'on est plusieurs. Il faut juste vérifier, avant de partir, que les amis ont le même budget que vous. En plus, il ne faut pas vérifier toutes les 5 minutes son agenda ou de réfléchir au trajet du lendemain. Lorsqu'on n'est pas seul, on peut mettre son cerveau en pause et laisser les autres gérer. Cela fait du bien.
Speaker D.
L'été dernier, mes 3 copains et moi, nous avons visité Shanghai et toute la région appelée Venise de l'Orient. C'était magnifique. Des étudiants chinois nous ont servi de guide sans demander un sou. Ils nous ont dit que leur récompense, c'était de pouvoir pratiquer le français. Très bon souvenir. Je crois que les vacances, c'est pour s'amuser, et pour moi, il est impossible de m'amuser sans mes amis. Par contre, au travail, j'aimerais être seul pour pouvoir travailler en tranquillité.
Speaker E.
Pour moi, la question ne se pose même pas. J'adore voyager seul. On peut y établir des contacts qu'un groupe, même petit, n'aurait pas pu avoir. Par exemple, il est plus facile de loger à l'improviste chez quelqu'un. On peut s'attarder quelque part sans avoir à s'accorder avant sur la nécessité de l'arrêt ou de la pause. On peut ne pas quitter sa chambre ou sa plage un jour de tristesse. Enfin, quand on est seul, tout le monde est prêt à venir en aide, car on paraît plus fragile.
Speaker F.
Voyager pendant plusieurs semaines à l'autre bout du monde avec des amis, constitue une sorte d'épreuve de force. C'est en revenant que vous savez s'ils sont toujours vos amis ou pas. Je crois que voyager avec des amis, c'est comme créer une entreprise avec des amis. Ce n'est pas toujours une bonne idée. Et si on y va quand même, il faut être prêt à faire des compromis qui peuvent parfois être importants. C'est la relation avec vos amis que vous risquez de mettre en danger.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А, Ж соответствуют содержанию текста 1. Vrai, какие не соответствуют 2. Faux, и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. Aucune information. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Pas de panique.
Salut Béatrice, ça va?
Salut Julien, non pas trop, je suis un peu nerveuse. Ça fait 3 jours que je dors mal. Tu sais, dimanche, je participe à un tournoi de tennis de table. Et franchement, ça me stresse énormément.
Voyons, d'où vient cette peur? Je ne comprends pas. D'abord, tu es une sportive expérimentée, et depuis le temps que tu joues, tu devrais avoir l'habitude, non?
Peut-être, mais là... Tu vois, c'est un tournoi national. Ça change tout. C'est la première fois que je joue à ce niveau. J'ai tellement peur. Je suis sûre que je vais perdre dès le premier tour.
Mais non, pas de panique. Essaye de te détendre. Écoute, je suis persuadée que tu es prête. Réfléchis un peu. Si tu as été sélectionnée, c'est que ton entraîneur te fait confiance et que tu as le niveau pour y arriver.
Je sais que tu as peut-être raison, mais je n'y peux rien. J'ai une peur bleue à l'idée de perdre. À propos, comment tu fais, toi, avant tes matchs de volley? Tu as toujours l'air d'être sûr de toi.
Rien de spécial, au fait. Je dors bien avant la compétition. À mon avis, le plus important, c'est de bien dormir la veille. Si tu arrives fatigué au tournoi, ça va être très difficile pour toi.
Oui, ça, je le sais. Mais mon problème est que, justement, je n'arrive pas à dormir. J'ai du mal à m'endormir et le matin, je me sens fatiguée.
Et si tu mettais de la musique douce avant de te coucher? Moi, ça me déstresse toujours. Ça peut t'aider à oublier un peu la compétition.
Ah non, surtout pas. J'ai horreur de m'endormir avec de la musique.
Moi, ça m'aide en revanche. Alors, j'ai une autre chose à te conseiller. Évite de trop jouer avant la compétition. Si j'étais toi, je ne m'entraînerais pas samedi.
Ça, c'est une bonne idée, je trouve. Je vais suivre ton conseil. Et pour le jour du tournoi, tu as des conseils particuliers?
Sois concentré, mais détendu. Après tout, essaie de profiter de la journée. L'important, c'est quand même de s'amuser.
C'est vrai ce que tu dis, merci Julien.
Et au fait, je peux venir te voir?
Bien sûr, si tu as envie, ça serait cool. Ça va sans doute me rassurer de savoir que tu es là.
Alors c'est réglé. Dimanche, je viendrai. Et je vais proposer à mon frère de venir. On va croiser les doigts pour toi.
Génial.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Pas de panique.
Salut Béatrice, ça va?
Salut Julien, non pas trop, je suis un peu nerveuse. Ça fait 3 jours que je dors mal. Tu sais, dimanche, je participe à un tournoi de tennis de table. Et franchement, ça me stresse énormément.
Voyons, d'où vient cette peur? Je ne comprends pas. D'abord, tu es une sportive expérimentée, et depuis le temps que tu joues, tu devrais avoir l'habitude, non?
Peut-être, mais là... Tu vois, c'est un tournoi national. Ça change tout. C'est la première fois que je joue à ce niveau. J'ai tellement peur. Je suis sûre que je vais perdre dès le premier tour.
Mais non, pas de panique. Essaye de te détendre. Écoute, je suis persuadée que tu es prête. Réfléchis un peu. Si tu as été sélectionnée, c'est que ton entraîneur te fait confiance et que tu as le niveau pour y arriver.
Je sais que tu as peut-être raison, mais je n'y peux rien. J'ai une peur bleue à l'idée de perdre. À propos, comment tu fais, toi, avant tes matchs de volley? Tu as toujours l'air d'être sûr de toi.
Rien de spécial, au fait. Je dors bien avant la compétition. À mon avis, le plus important, c'est de bien dormir la veille. Si tu arrives fatigué au tournoi, ça va être très difficile pour toi.
Oui, ça, je le sais. Mais mon problème est que, justement, je n'arrive pas à dormir. J'ai du mal à m'endormir et le matin, je me sens fatiguée.
Et si tu mettais de la musique douce avant de te coucher? Moi, ça me déstresse toujours. Ça peut t'aider à oublier un peu la compétition.
Ah non, surtout pas. J'ai horreur de m'endormir avec de la musique.
Moi, ça m'aide en revanche. Alors, j'ai une autre chose à te conseiller. Évite de trop jouer avant la compétition. Si j'étais toi, je ne m'entraînerais pas samedi.
Ça, c'est une bonne idée, je trouve. Je vais suivre ton conseil. Et pour le jour du tournoi, tu as des conseils particuliers?
Sois concentré, mais détendu. Après tout, essaie de profiter de la journée. L'important, c'est quand même de s'amuser.
C'est vrai ce que tu dis, merci Julien.
Et au fait, je peux venir te voir?
Bien sûr, si tu as envie, ça serait cool. Ça va sans doute me rassurer de savoir que tu es là.
Alors c'est réglé. Dimanche, je viendrai. Et je vais proposer à mon frère de venir. On va croiser les doigts pour toi.
Génial.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 3.9. Вы услышите интервью. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
La vie continue après Harry Potter. Le traducteur français de la série Harry Potter nous a reçus chez lui, dans son appartement parisien, à l'occasion de la sortie du 7e et dernier tome de Les Reliques de la Mort. Avant d'être traducteur, il était auteur d'un livre de contes, Le voleur de chapeaux, publié chez Gallimard en 1980. Jean Ménard, comment votre parcours vous a-t-il mené vers les mots?
Mon père était comédien pour la radio et le doublage, et ma mère enseignait l'anglais au lycée Carnot. Après une scolarité plutôt chaotique, j'ai fait l'assistant réalisateur, le stagiaire. Dans ce milieu, tout le monde me disait « tu ferais mieux d'écrire ».
Comment vous sentez-vous après cette ultime traduction de Harry Potter? Soulagé ou triste?
Je ne suis pas triste, car dès le premier volume, en 1998, il était prévu qu'il y en aurait 7. Il n'y a donc pas d'effet de surprise. J'étais préparé depuis 10 ans que je travaillais à la traduction.
Dans quelles conditions avez-vous travaillé cette fois-ci?
Depuis le 4e tome, les conditions sont les mêmes pour les 64 traducteurs de J.K. Rowling. il ne découvre le livre qu'au moment de sa publication en anglais, le 21 juillet cette année. J'ai donc travaillé non-stop pendant 2 mois environ, de 6 heures du matin à minuit, avec une pause de 2 heures au moment du déjeuner afin de me changer les idées.
Ce dernier tome a-t-il été difficile à traduire?
Cette fois, l'écriture est beaucoup plus dense, plus dure aussi. On sent chez J.K. Rowling la volonté de décrire les pensées et les émotions de ses personnages. Elle pénètre dans leur tête avec une grande précision. Harry Potter et les reliques de la mort est fondé sur un formidable clair-obscur. Il y a, dans ce dernier volume, plus de personnages totalement noirs et finalement assez peu de personnages totalement lumineux. L'obscurité gagne toujours un peu sur la lumière.
Vous attendiez-vous à cette fin?
Je ne m'attendais à aucune fin. Je ne cherche pas à deviner ce qui va se passer, ni à orienter ma traduction. On se trompe toujours à ce jeu-là. Et puis, je suis bon public. Bien sûr, je n'ai pas le même plaisir que le lecteur, car je commence en lisant le dernier chapitre parce que certains mots se traduisent différemment selon la fin.
En tant que traducteur, comment analysez-vous l'écriture de J.K. Rowling?
Son style déborde d'imagination, et on sent toutes les idées qui fourmillent dans sa tête. Il y a un nouveau concept à chaque phrase, et c'est formidable, car cela donne un rythme très fort aux 7 romans. Elle sait adapter sa plume à tout type de situation.
Comment avez-vous réussi à franciser tant de noms et de mots inventés par J.K. Rowling?
J'aime inventer des mots. Par exemple, Hogwarts. L'école des sorciers en anglais m'a inspiré Poudlard.
Certains noms étaient-ils plus difficiles à traduire?
Oui, celui du professeur Ombrage, par exemple. Je ne voyais vraiment pas d'équivalent jusqu'au jour où je suis tombé sur un article concernant Harry Potter. À cause d'une faute, Umbridge a été orthographié Umbrage. Cette faute m'a donné l'idée d'appeler le professeur Ombrage, ce qui va très bien avec le caractère déplaisant de ce personnage.
Ne vous êtes-vous jamais lassé de Harry Potter?
Non, car je considère Harry Potter non comme une série, mais plutôt comme un roman en 7 volumes. Et puis, il n'y a pas que Harry Potter dans ma vie.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
La vie continue après Harry Potter. Le traducteur français de la série Harry Potter nous a reçus chez lui, dans son appartement parisien, à l'occasion de la sortie du 7e et dernier tome de Les Reliques de la Mort. Avant d'être traducteur, il était auteur d'un livre de contes, Le Voleur de Chapeaux, publié chez Gallimard en 1980. Jean Ménard, comment votre parcours vous a-t-il mené vers les mots?
Mon père était comédien pour la radio et le doublage, et ma mère enseignait l'anglais au lycée Carnot. Après une scolarité plutôt chaotique, j'ai fait l'assistant réalisateur, le stagiaire. Dans ce milieu, tout le monde me disait « tu ferais mieux d'écrire ».
Comment vous sentez-vous après cette ultime traduction de Harry Potter? Soulagé ou triste?
Je ne suis pas triste, car dès le premier volume, en 1998, il était prévu qu'il y en aurait 7. Il n'y a donc pas d'effet de surprise. J'étais préparé depuis 10 ans que je travaillais à la traduction.
Dans quelles conditions avez-vous travaillé cette fois-ci?
Depuis le 4e tome, les conditions sont les mêmes pour les 64 traducteurs de J.K. Rowling. Il ne découvre le livre qu'au moment de sa publication en anglais, le 21 juillet cette année. J'ai donc travaillé non-stop pendant 2 mois environ, de 6 heures du matin à minuit, avec une pause de 2 heures au moment du déjeuner afin de me changer les idées.
Ce dernier tome a-t-il été difficile à traduire?
Cette fois, l'écriture est beaucoup plus dense, plus dure aussi. On sent chez J.K. Rowling la volonté de décrire les pensées et les émotions de ses personnages. Elle pénètre dans leur tête avec une grande précision. Harry Potter et les reliques de la mort est fondé sur un formidable clair-obscur. Il y a, dans ce dernier volume, plus de personnages totalement noirs et finalement assez peu de personnages totalement lumineux. L'obscurité gagne toujours un peu sur la lumière.
Vous attendiez-vous à cette fin ?
Je ne m'attendais à aucune fin. Je ne cherche pas à deviner ce qui va se passer, ni à orienter ma traduction. On se trompe toujours à ce jeu-là. Et puis, je suis bon public. Bien sûr, je n'ai pas le même plaisir que le lecteur, car je commence en lisant le dernier chapitre parce que certains mots se traduisent différemment selon la fin.
En tant que traducteur, comment analysez-vous l'écriture de J.K. Rowling ?
Son style déborde d'imagination et on sent toutes les idées qui fourmillent dans sa tête. Il y a un nouveau concept à chaque phrase et c'est formidable, car cela donne un rythme très fort aux 7 romans. Elle sait adapter sa plume à tout type de situation.
Comment avez-vous réussi à franciser tant de noms et de mots inventés par J.K. Rowling ?
J'aime inventer des mots. Par exemple, Hogwarts, l'école des sorciers en anglais, m'a inspiré Poudlard.
Certains noms étaient-ils plus difficiles à traduire ?
Oui, celui du professeur Ombrage, par exemple. Je ne voyais vraiment pas d'équivalent jusqu'au jour où je suis tombé sur un article concernant Harry Potter. À cause d'une faute, Umbridge a été orthographié Umbrage. Cette faute m'a donné l'idée d'appeler le professeur Ombrage, ce qui va très bien avec le caractère déplaisant de ce personnage.
Ne vous êtes-vous jamais lassé de Harry Potter ?
Non, car je considère Harry Potter non comme une série, mais plutôt comme un roman en 7 volumes. Et puis, il n'y a pas que Harry Potter dans ma vie.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. Votre épreuve de compréhension orale est terminée.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.